Deutsche Welle Forum der Kultur.
Il y a quand même pour moi, je le dis sans emphase, un avant et un après Rwanda. Et le texte qui marque cette période, c'est bien Morambié d'ailleurs. Je crois que tout ce que j'ai produit par la suite porte la marque de l'expérience du génocide rwandais.
Et Morambi, le livre des ossements, reste le roman le plus connu et le plus lu du grand écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop. Écrit en 1998 et réédité l'an dernier, ce témoignage consacré au génocide des Tutsis, l'auteur l'a rédigé après avoir passé plusieurs mois sur les lieux de mémoire à Morambi, 4 ans après les massacres. Le Rwanda a été un tournant dans l'œuvre et la vie du romancier, auteur également de « Le temps de Tamango », Kavena ou encore Les Petits de la Guenon. Boubacar Boris Diop est l'invité du Forum des Cultures. Bonjour à tous et bienvenue.
Le Rwanda, ce génocide, il a lieu en 94. Moi, je suis quelqu'un qui, toute sa vie, a été dans des parcours politiques, en essayant d'être aussi informé que possible du côté de la justice sociale. J'ai milité dans des mouvements d'extrême gauche ou en marge d'eux. J'ai une formation de philosophe, de prof de littérature. Je suis journaliste, romancier. Je voyage beaucoup. Je suis africain. Et en même temps, dans un pays africain, on tue 10 000 personnes chaque jour pendant 100 jours et je ne suis pas au courant. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et donc, la question que je me pose, c'est, mais finalement, quel genre d'intellectuels sommes-nous? Si 3 fois à 4 fois, le 11 septembre, pendant 100 jours, nous ne nous en rendons pas compte. Et donc, ce choc-là, c'est le choc de la découverte de ce que ça veut dire un intellectuel africain. Ce que ça a de dérisoire, comme on se laisse facilement manipuler. C'était un sentiment de shame, de honte. Et je me suis dit que finalement, la connaissance que j'avais de la réalité politique africaine, voire de la réalité de mon pays, était une connaissance purement livresque. Et qu'il faut repartir de zéro. Et repartir de zéro, c'est en finir avec les idées reçues. D'abord, celle selon laquelle l'Afrique est un village continental, un pays quoi. J'en déduis que, quel que soit le pays concerné, ce qui s'y déroule doit être analysé en prenant en compte des dynamiques internes, une trajectoire historique particulière, et non pas la catégorie abstraite qui ne s'adapte à rien du tout, qui s'appelle l'Afrique. C'est aussi le Rwanda, la question de eux et nous. Parce que pourquoi, lorsque le génocide a lieu, eh bien, le jugement de quelqu'un comme François Mitterrand, c'est de dire dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. Pourquoi Charles Pasqua dit à France 2, hein, pas en secret, mais à France 2, au journal télévisé en prime time, « Oh, vous savez, monsieur, s'adressant à un journaliste qui l'interrogeait, ce qui se passe au Rwanda n'a pas la même valeur pour eux et pour nous. » Voilà, donc « eux et nous ». C'est même pas moi qui invente le « eux » et « nous ». C'est-à-dire, le génocide aussi, c'est un miroir qui nous est tendu, dans lequel nous devons avoir le courage de nous regarder, reconnaître nos failles, et nous demander pourquoi on nous crache si facilement à la figure.
Pour la réédition de Morambi, le livre des ossements, Boubacar Boris Diop a rajouté une postface. Il revient sur la genèse du livre, dénonce le rôle joué par la France dans le génocide des Tutsis et se livre à une autocritique sévère. Il conclut en citant un proverbe wolof : « Si tu empruntes à quelqu'un ses yeux, ne t'étonne pas de ne voir que ce que lui-même voit.
C'est une traduction quasi littérale d'un proverbe. C'est exactement ça. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, lorsque je parle avec les intellectuels africains, les plus brillants, ils ne voient le monde qu'à travers les catégories de l'Occident. Et moi, une autre leçon que j'ai retenue du Rwanda, c'est que quand même, la question du mépris de soi est une question culturelle très importante. Et c'est ce chemin-là qui fait que moi, j'écris des romans en français et puis brusquement, je bifurque, je me mets à écrire des romans en wolof. Parce que ce que nous appelons la haine de l'autre, dans le cas, par exemple, du génocide des Tutsis, mais c'est d'abord la haine de soi, la haine de ce qu'on est. Partout on dit, Hutu et Tutsi, ça n'existe pas. Ils ont la même langue, ils ont le même dieu Imana, les mêmes croyances, ils partagent le même territoire. Lorsque le Hutu tue le Tutsi, au fond, c'est lui-même qu'il est en train de tuer. Et cette propension à s'acharner sur toujours celui qui nous est le plus proche. Le cas de figure rwandais est exemplaire, parce qu'il y a si peu de différence entre Hutu et Tutsi. Donc voilà, sans la haine de soi, sans la haine d'eux-mêmes, les Hutus ne se seraient pas acharnés aussi cruellement sur les Tutsi.
Comme vous l'avez dit, écrire dans votre langue maternelle, le Wolof, a été une démarche suite à toutes ces réflexions sur le génocide rwandais. Ouais. Est-ce que ça a été un processus naturel, entre guillemets, votre langue d'écriture, jusqu'à maintenant, c'était quand même le français ?
Oui. Je précise, j'écris dans les deux langues. On a deux pieds, il faut marcher avec ces deux pieds. Il ne faut pas se compliquer la vie.
Disons qu'un était plus entraîné.
C'est évident. Voilà. Jusqu'à ce moment-là, j'écrivais exclusivement en français parce que j'étais d'abord convaincu que peut-être que je n'y arriverais pas parce que ma formation, mes lectures, c'était quand même dans la langue française. Et l'envie d'écrire m'est venue très tôt, vers l'âge de 15 ans, en lisant des auteurs traduits en français ou français, tout simplement. J'avais écrit des poèmes et tout, quand j'étais plus jeune en Wolof, mais bon, ça comptait pas, quoi. Là, c'était quand même du sérieux, c'était un travail romanesque. Mais jamais je n'ai été tenté de lâcher. Parce que finalement, quand on en vient à la question de la langue, beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi, diable, les Français sont-ils allés se faire complices d'un génocide aussi abominable ? Et la plupart des explications qu'on donne, je parle volontairement des historiens français, c'est que le Rwanda est un bastion francophone dans un environnement anglophone. Et pour Mitterrand et d'autres, il n'est pas question de laisser une guérilla FPR qui parle anglais envahir le Rwanda, prendre le pouvoir. Donc il faut y aller, quoi. Avec les Hutus, avec ceux qui parlent le français en gros. Donc, il y a cette dimension linguistique fondamentale dans la collaboration de l'État français avec le gouvernement qui organise et exécute le génocide. Et ça donne une espèce de répulsion vis-à-vis de cette langue française que l'on a toujours respectée, peut-être même parfois un peu aimée. Et je sais, lorsque je me mets à écrire en Wolof, que ça a beau être difficile, j'y arriverai. Et à l'arrivée, je considère, en étant moi-même un peu surpris, que Domingolo est le meilleur roman que j'ai jamais écrit.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Mais parce que sa structure est d'abord d'une complexité naturelle. Et aussi, j'ai beaucoup appris que finalement, on n'écrit pas avec un vocabulaire froid, avec les mots morts du dictionnaire, qu'un roman, ça s'écrit avec la langue de la ville. La rencontre, je crois, entre le texte et une réalité linguistique solide, bien établie, c'est ça qui a garanti la qualité de l'ouvrage, à mon avis. Et puis, tout bêtement, c'est dans ce livre que j'ai pu dire, sans aucune espèce d'autocensure, je dirais, tout ce que je voulais. Par exemple, dans mes autres romans, sans que j'aie jamais réussi à me l'expliquer, les allusions au sexe étaient très discrètes, étaient très stylisées. Ici, non. C'est juste comme ça, sans aucune espèce de volonté de choquer ni rien, parce que c'est ainsi que l'on parle. Et voilà, il y a la réalité poétique et sonore du texte.
Domigolo ou Les Petits de la Guenon raconte l'histoire d'un vieux monsieur mourant qui s'adresse à son petit-fils exilé et lui parle dans des carnets qu'il retrouvera à son retour de ses aïeux, de son parcours et du Sénégal d'aujourd'hui. Cette fable à la fois intimiste et politique est donc à lire en wolof dans le texte original ou dans la version française, une adaptation plus qu'une traduction réalisée par l'auteur lui-même. Voilà, c'est la fin de cette édition du Forum des Cultures. Merci à vous de l'avoir suivi et merci bien sûr à Boubacar Boris Diop d'y avoir participé. C'était Guylaine Tapaz au micro. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site dw.de/français. Restez à l'écoute des programmes de la Deutsche Welle. Bonne semaine et à bientôt.